Salut Siri, comment tu vas ?
Je vais bien, merci. En quoi puis-je vous aider ?
Garage digital. Communication numérique. Réactivité.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'UPVD de Mende en partenariat avec 48FM, Lozère Développement et le programme La Fabrique des Territoires.
Bonjour à tous, nous sommes en direct sur 48FM. Je m'appelle Julie, étudiante en licence TAFT à l'UPVD Antenne de Mende et je suis votre nouvelle animatrice pour cette édition de 48 Digital. Nous sommes en direct sur la page YouTube et Facebook de Lozère Développement et sur les ondes de 48FM. Dans cette émission, mes camarades et moi-même allons vous parler de la construction d'une destination. Pour répondre à nos questions, nous recevons Jean Pinard, directeur du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie, et Éric Debène, directeur de Lozère Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme de la Lozère. L'objectif aujourd'hui est d'illustrer le rôle des OGD, les organismes de gestion des destinations, sur leur mission, notamment en lien avec les outils numériques, mais aussi de porter un regard croisé sur la construction et l'animation de destinations touristiques. Nous verrons ainsi si vos idées divergent, quelles sont vos stratégies et vos techniques. Bonjour messieurs, bienvenue dans 48 Digital depuis Pollen, le pôle lozérien d'économie numérique. Jean Pinard, vous êtes le directeur du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous présenter le CRTL et ses missions ?
Bonjour. Eh bien écoutez, oui, c'est une structure qui existe. Les CRT existent dans toutes les régions. Hein. C'est les régions qui ont compétence pour créer leur Comité Régional de Tourisme, les financer, puis surtout leur donner des objectifs qu'on essaie de formaliser dans des contrats, des conventions pluriannuelles. Donc le CRT, c'est une structure associative de 70 salariés. Un tiers est réparti sur Montpellier, le deuxième tiers sur Toulouse. Et par convention donc, avec le Conseil Régional d'Occitanie, bah, nous ouvrons au développement de l'économie touristique, à son organisation territoriale, et puis surtout on fait en sorte voilà, d'améliorer l'attractivité de la destination. Et comme la compétence est partagée, c'est un travail qu'on partage dans le cadre de collaboration, de coopération, moi j'aime bien utiliser le terme de coopération, avec les comités départementaux de tourisme, et puis avec les offices de tourisme, parce qu'il y a encore en Occitanie 160 offices de tourisme, 13 départements, donc 13 ADT, ça fait beaucoup d'acteurs pour une seule même compétence, mais comme c'est un peu plus de 10% du PIB, ça fait beaucoup d'économies aussi, donc c'est bien que la compétence soit partagée et que nous travaillons donc ensemble à l'amélioration de l'attractivité de nos destinations respectives.
Tout à fait. Et alors dites-moi, combien de pôles composent ce CRTL ?
Alors, on a un pôle ressources, bien évidemment, on a 4 pôles qui structure notre organisation, un pôle marketing, leur travail c'est d'amener les bons produits sur les bons marchés, un pôle communication, et on fait bien la différence entre le marketing et la communication. La communication, ce sont les gens qui vont trouver le bon message sur les bons médias, un pôle qui va s'occuper de la formation, qui va s'occuper de l'observation, de la gestion de la donnée, de la data, parce que c'est important. Et puis un quatrième pôle, qui est nouveau, puisque c'est une compétence nouvelle au sein du CRT depuis 2 ans, qui gère tout ce qui est lié à la qualité et puis au développement durable et à tout ce qui doit s'améliorer en termes de durabilité dans l'économie touristique.
Y a-t-il un pôle plus important qu'un autre ?
En volume de personnes ou en compétences ?
En compétences et en volume, on va dire.
Enfin, les 4 pôles ont leur intérêt, parce que sinon on ne serait pas organisé comme ça. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une espèce de logique dans cette organisation. on démarre, si on devait faire un petit dessin et l'illustrer, on démarre par l'observation, parce que c'est l'analyse de la fréquentation, l'analyse de l'économie qui nous permet de d'émettre des stratégies. On pense ensuite sur tout ce qui va structurer l'offre de nos destinations, l'accompagnement à l'évolution de l'offre et en particulier à son évolution pour que le tourisme soit plus responsable et plus durable. Ensuite, on a des produits, donc on amène ces produits sur les marchés, c'est le pôle marketing, et puis on termine, si on devait fermer le cercle, on termine par tout ce qui est relatif à la communication, donc au message qu'on veut faire passer pour faire en sorte que de plus en plus de clientèle touristique, lointaine ou pas lointaine, viennent profiter de l'Occitanie.
D'accord. Et vous, monsieur, en tant que directeur, en quoi consiste votre métier ?
Surveiller que tout le monde mette bien en œuvre ce qu'on a décidé dans nos conseils d'administration, dans nos comités de direction, non, mais de manière plus positive, parce que moi je suis pas un surveillant général, à faire en sorte que ce qui a été validé, ce qui a été proposé en termes stratégiques, à la fois aux côtés de la région, à la fois aux côtés de nos partenaires que sont les CDT ou les offices de tourisme, à la fois auprès des organismes professionnels qui fédèrent les hôtels, qui fédèrent les campings, fédèrent les gîtes, de faire en sorte que notre action, voilà, je vous dis, soit la plus coopérative possible. On est financé par l'argent public et moi, je veux dire, notre obsession, c'est de faire en sorte que l'usage de l'argent public soit le plus performant possible, parce qu'on a d'un côté des acteurs, des professionnels qui sont en attente de performance, parce qu'ils se sont engagés dans cette économie et dans ces métiers, et on se doit de les accompagner, et puis faire en sorte que ce que nous faisons ensemble, on le fasse par addition et pas par opposition, parce qu'on pourrait tous faire la même chose. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas de savoir qui fait, c'est comment on fait mieux ensemble.
Très bien. Passons à monsieur Éric Deben. Donc finalement, c'est pareil pour Lozère Tourisme, mais au niveau départemental.
C'est presque pareil, oui. Merci Julie. Et Jean faisait bien de rappeler aussi que le tourisme est une compétence partagée en France. Donc on a trois échelons, effectivement, qui font du tourisme et qui font la promotion de leur destination. Donc les offices de tourisme, les comités départementaux du tourisme, les CRT pour le compte de la région. Donc nous, on est effectivement le bras armé du département pour tout ce qui touche à la promotion du territoire. Et on travaille, comme le disait Jean, de façon intelligente ensemble. Voilà, il n'y a pas de tutelle d'une structure sur une autre, mais on travaille pour se compléter et puis pour mettre en place des actions. On y reviendra certainement un petit peu plus tard. Donc je ne sais pas, Julie, si c'est les mêmes questions ou s'il faut faire une présentation un peu de Lozère Tourisme.
Non,
aussi,
je vais vous guider, vous allez voir. Donc dites-moi, comment est organisé le CDT ?
Donc le CDT, nous on a notre siège qui est juste un petit peu en dessous de Pollen, là vraiment à 2 minutes à pied, donc il y a une proximité. On a le siège donc à Mende, on a 25 équivalents temps plein, on a effectivement au siège un service support qui s'occupe des RH, qui s'occupe de la comptabilité, enfin qui s'occupe de toutes ces choses-là. On a un petit service observatoire et on a des pôles majeurs qui sont le pôle promo. Promotion générale, on a un pôle numérique aussi, on a un pôle commercial parce qu'on a une spécificité aussi à Lozère Tourisme d'avoir des activités commerciales. On est 25 équivalents temps plein au siège et on a une grosse centrale de réservation de 11 personnes qui a à peu près 800 hébergements dont on fait la promotion et la commercialisation pour les propriétaires qui nous confient leurs hébergements à la vente. Et puis nous avons aussi la spécificité d'avoir deux maisons de la Lozère. Une maison de la Lozère sur l'aire d'autoroute de la 75 à l'entrée nord du département. Et on a une maison de la Lozère à Paris aussi avec une épicerie fine, un espace tourisme, un espace exposition et on gère aussi un restaurant. Voilà, et je pense qu'on est le seul CDT de France à gérer encore un restaurant. Donc voilà, on a deux ambassades, ce qui fait un équivalent en termes de personnel. On a 38 équivalents temps plein au sein de Lozère Tourisme.
D'accord. Et donc, vous êtes le directeur de Lozère Tourisme. En quoi consiste votre métier ?
Un peu comme disait Jean. Après, moi, je trouve important dans le métier de directeur, c'est de mettre le plus possible de liant entre les services, que les choses soient le le plus transversal possible, parce que tout le monde travaille pour la même chose, et en additionnant les énergies et en sachant bien, en optimisant au mieux un peu tout ce qu'on peut faire, mais en mode projet, c'est très très important pour être plus efficace. Voilà. Et puis après, c'est toutes les relations qu'on a avec nos partenaires, comme le disait Jean, avec le CRT, avec qui on travaille beaucoup, les offices de tourisme aussi, qui sont des partenaires de proximité, et puis bien sûr, les relations qu'on a avec le département, et puis tous les autres partenaires qu'on peut avoir.
D'accord, merci beaucoup. Donc, le CRTL et Lozère Tourisme sont des OGD, des organismes de gestion des destinations. Nos auditeurs se demandent peut-être qu'est-ce qu'un OGD ? Selon Julie Manfredini, docteur en histoire contemporaine, les OGD ont pour mission de développer le caractère touristique de leur territoire de compétence, c'est-à-dire de concevoir les stratégies de mise en tourisme de leur territoire à travers divers échelons. Voulez-vous ajouter quelques points à ma définition, messieurs ?
Non, moi je me retrouve par rapport à ça. Je rajouterais simplement par rapport à la définition et par rapport à la référence qui est faite au mot « territoire », c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive à distinguer ce qui relève de cet usage du mot territoire qui renvoie plutôt à une vision administrative, de la notion de destination qui, elle, renvoie plutôt à une vision touristique. Et autant il y a des territoires et des destinations qui se superposent parfaitement, je le dis ici, c'est pas parce qu'on est en Lozère, mais la Lozère, oui, a une référence touristique. Vous avez des départements ou même des régions qui n'ont pas de référence touristique. La région Grand Est, voilà, c'est un nom qu'on a trouvé parce qu'il fallait fusionner des régions, mais n'allez pas dire aux Alsaciens que quand on vient passer ses vacances, on vient en Grand Est, c'est pas vrai. Et n'allez pas dire aux touristes qui, quand ils vont chercher des informations pour venir en Alsace, vont aller taper le mot-clé à Alsace plutôt Grand Est. Donc, il y a une espèce de confusion très franco-française qui voudrait que, voilà, on confonde la notion de territoire dans sa vision administrative de la notion de destination. Et je suis bien placé pour en parler ici en Occitanie. Occitanie, c'est le nom d'une région fusionnée. Alors, c'est un nom que je trouve plutôt bien trouvé si on le compare à Grand Est ou Hauts-de-France, hein, parce qu'il renvoie à une culture, à une histoire. Pour autant, il faut qu'on soit modeste et qu'on prenne bien en considération le fait qu'il y a, doit avoir quoi, 10 clients sur 100 ou 10 vacanciers ou 10 futurs vacanciers sur 100 qui vont taper Occitanie sur les moteurs de recherche parce qu'ils viennent soit en Lozère, soit dans la Grande Motte. Donc voilà, il y a une superposition de destinations et cette confusion territoire-destination, je pense qu'elle est assez préjudiciable à la performance de nos structures.
Très bien. Afin de mieux comprendre vos visions sur les constructions de destinations, nous allons parler tout d'abord des missions de promotion et d'information des organismes de gestion de destinations, des missions de base de vos structures. Dites-nous, quelle stratégie de promotion vous menez au niveau régional, donc Jean Pinard, et départemental, Éric Debène ?
Je démarre. Écoutez, au niveau départemental, nous, on met beaucoup l'accent depuis plusieurs années sur tout ce qui touche aux relations presse. C'est-à-dire faire venir des journalistes, essayer qu'on parle de la Lozère dans différentes émissions de télé, qu'on ait des reportages réguliers dans l'audiovisuel. On y réussit relativement bien. Ça, c'est un effort aussi important parce qu'il faut entretenir le réseau aussi. Il faut toujours avoir des sujets qui peuvent interpeller et intéresser aussi les rédactions. On s'est mis très tôt aussi sur tout ce qui était, et on sentait que ça allait venir, c'était les influenceurs, les blogueurs, parce que ça vient en complément aussi de ce que je vous disais précédemment. Et ça aussi, c'est très intéressant et très important, ne serait-ce aussi que pour rajeunir la clientèle, parce que c'était aussi notre choix, aussi de rajeunir la clientèle. Donc voilà, on travaille beaucoup sur tout cela. On a aussi quelques opérations aussi avec le département, qui est une opération assez majeure sur les villes de proximité à moins de 3 heures de la Lozère. Donc ça a été le cas à Lyon, ça a été le cas à Toulouse, ça a été le cas à Marseille, ça a été le cas à Bordeaux, ça a été le cas aussi à Montpellier. Donc voilà, ça ce sont des grosses manifestations qui se déroulent chaque année. Et puis nous sommes très actifs aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est quand même un vecteur très important pour nous. Et juste avant de monter, là, je regardais à peu près combien on avait d'abonnés en fait sur les réseaux sociaux pour la Lozère. Et alors, c'est très marrant parce que le chiffre correspond à peu près On est à plus de 77 000 en fait, abonnés, tous réseaux sociaux confondus, la Lozère, Lozère Tourisme. Et ça correspond à peu près au nombre de la population, en fait. Donc voilà, j'ai fait le rapprochement assez rapidement. Donc voilà, c'était très marrant. Donc voilà, pour l'essentiel, avec les objectifs quand même affirmés, c'est qu'on essaye beaucoup aussi. Alors bien sûr, on travaille sur le cœur de la saison estivale, parce que c'est là où il y a le plus de monde et c'est là où les prestataires ont l'activité la plus importante et qui rapporte plus d'argent que peut-être hors saison. Néanmoins, on développe aussi beaucoup plus la communication sur le hors saison. En saison estivale, on travaille bien sûr sur cette période-là, mais on essaye de développer aussi les ailes de saison, de rajeunir la clientèle, de faire venir les familles aussi, parce qu'on avait une clientèle en Lozère qui était plus senior, entre guillemets. Donc cette clientèle continue de venir de toute façon, mais il n'y a pas véritablement besoin d'aller vraiment beaucoup la travailler, en fait. Voilà, donc on est sur tous ces aspects, et puis peut-être on y viendra plus tard, mais il y a des dispositifs qu'a mis aussi en place le CRT avec les CDT, notamment les pactes, où on travaille sur les destinations, ce dont parlent les gens aussi. Et ça, c'est très porteur aussi, parce qu'on voit aussi que toutes ces actions sur lesquelles on a mis des moyens communs nous donnent des enveloppes pour faire des choses très intéressantes et des choses qu'on n'aurait pas pu faire si on les avait financées tout seul. Voilà, mais je pense qu'on y viendra plus tard.
Je me doute.
Alors, d'abord, moi, je bannis le mot promotion. Alors, je vous le dis aux étudiants de licence, c'est un peu le mot bateau qu'on utiliserait pour faire le lien entre le marketing d'un côté et la communication de l'autre. Donc, moi, je vais plutôt répondre par rapport aux actions de communication qu'on fait, qui auraient pour objet, voilà, de mieux faire connaître l'Occitanie. Alors, comme je disais tout à l'heure, la difficulté pour nous, c'est que l'Occitanie, c'est pas forcément facile à dire quand on travaille indirectement pour le compte de la région Occitanie, mais c'est que le nom existe du point de vue administratif, du point de vue institutionnel, mais il n'existe pas du point de vue de la destination. Donc c'est compliqué de parler au nom d'une destination qui, une fois que vous avez passé les frontières du territoire français, n'est absolument pas connue. Allez dire à des Allemands, c'est où l'Occitanie, ils vous le diront pas. Enfin, je veux dire, imaginons que demain, l'Andalousie fusionne avec je sais quelle autre région d'Espagne et qu'on dise, bah, c'est plus l'Andalousie, c'est un autre nom. Il y a peu de chances qu'on apprenne notre géographie des régions européennes aussi facilement que ça. Donc, on s'appuie sur deux stratégies qui sont assez paradoxales. La première, c'est que comment on contourne la faible notoriété de l'Occitanie à l'étranger. Et je rejoins ce que vient de dire Eric, on s'appuie nous sur ce qu'on appelle des marques de destination, dont les performances, par contre, en termes de notoriété, en termes d'image de marque, donc sont plus performantes que le nom de l'Occitanie. Tu as cité là tout de suite ce qu'on appelle les pactes, c'est des plans d'action concertés et touristiques sur lesquels on s'engage Office du Tourisme, CDT et CRT, sur des destinations dont on est sûr que la performance en termes de réputation est très forte. La réputation, hein, c'est à la fois on connaît et à la fois on est capable de donner une image derrière. Je donne l'exemple puisqu'on n'en est pas loin, ou je ne sais pas si on est précisément dedans, mais les Cévennes, voilà, les Cévennes, c'est une destination qui nous semble intéressante. L'Aubrac est une destination qui nous semble intéressante. La Camargue est une destination qui nous semble intéressante de promouvoir en faisant juste en sorte, parce que c'est ce qui nous intéresse nous au nom du CRT, de préciser que la Camargue c'est en Occitanie, que les Cévennes sont en Occitanie, parce que la région est très grande et que le Quidam n'est pas forcément super performant en termes de géographie touristique. Voilà, donc on s'appuie nous sur des destinations dont les performances sont avérées et on veut attribuer ces destinations à l'Occitanie. Et puis le deuxième axe de travail qui renvoie à l'idée qu'on voudrait que l'Occitanie soit repéré internationalement, en tout cas au moins au niveau européen, par les clientèles touristiques, comme une destination de développement durable. Et c'est tout le travail qu'on fait autour du train, en prolongement de ce que fait le conseil régional, là pour le coup en tant que collectivité avec les billets de train 1 euro, dont j'espère vous avez tous profité cet été. Et puis l'Occitanie Rail Tour, qui était pour nous une manière d'attribuer l'image du train à l'Occitanie, en particulier donc auprès des clientèles européennes, en disant voilà, on a un pays, on a une région grande comme un pays, qui est certainement la plus belle d'Europe sans chauvinisme aucun. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette région. Vous pouvez tout faire en train avec des tarifs super intéressants, puisque l'Occitanie Rail Tour, c'est 10 euros par jour pour voyager de manière illimitée tous les jours de l'année, sans condition d'âge. Donc voilà, ce produit-là nous permet de faire identifier l'Occitanie dans la, sur la carte des régions européennes, comme une région à part qui a beaucoup misé sur le train et qui surtout fait en sorte que le voyage et le déplacement soient le moins coûteux possible pour les jeunes qui viennent nous visiter.
Mmh. Je vois. Et on peut dire donc que les objectifs et ou les cibles de promotion, si je peux le dire, ne sont pas différentes entre le niveau régional et départemental.
Bon, je pense qu'on est proche. Alors après, il y a un historique qui fait que les comités régionaux de tourisme ont plutôt une compétence pour aller travailler les marchés étrangers, parce que c'est le niveau supra départemental ou territorial qui veut ça. Donc oui, effectivement, on a plus que les comités départementaux de tourisme des actions à mener sur les marchés étrangers. Ceci dit, ce qu'on fait dans le cadre des contrats de destination, qui sont un autre dispositif, on en a un ici à l'échelle du Massif central entre le Lot, l'Aveyron et la Lozère, on le fait principalement sur les marchés européens, on le fait ensemble. Donc moi je crois que l'idée de dire que il y avait une espèce de mythe qui disait que voilà, les CRT s'occupaient des clients qui étaient très très loin, c'est un peu fini, d'abord parce que ça coûte cher, et puis ensuite parce que c'est moins durable, et puis enfin parce qu'on considère tous que les marchés de proximité, donc les habitants de nos territoires, sont des consommateurs qu'on a intérêt à faire consommer plus les activités de loisirs et les activités touristiques.
Mais pour autant, la clientèle étrangère n'est pas une clientèle qui est négligée, hein, puisqu'on a des appétences, effectivement. Jean parlait au niveau des destinations des Cévennes. C'est une terre protestante, donc il y a aussi beaucoup d'Allemands qui viennent sur le département. Beaucoup de Suisses aussi, ne serait-ce que par cet aspect-là. Jean parlait aussi au niveau des destinations de l'Aubrac, peut-être aussi. Alors, je ne sais plus si c'était l'Aubrac, hein, mais aussi les Gorges du Tarn. Tout ça, en majorité, c'est en Lozère. Donc on est très gâté par la nature aussi au niveau de la Lozère. C'est vrai, on est sans chauvinisme, mais je plaisante, on est sans doute un des plus beaux départements de France. Hein. Voilà, dans la plus belle région d'Europe, donc si vous voulez, que voulez-vous de plus? Et puis on a la Margeride aussi, qui est en majorité aussi en Occitanie. Et puis on a la vallée du Lot, là voilà, vous avez les cinq régions naturelles de la Lozère qui sont quelque part pour autant des destinations, mais qui font rayonner aussi l'Occitanie, bien sûr la Lozère et au-delà même l'Occitanie.
Mais je crois qu'il faut bien comprendre et partager avec vous que voilà, cette logique administrative qui veut que voilà, on ait des périmètres administratifs parce que ce sont les collectivités qui nous financent, ne doivent pas nous empêcher d'avoir des logiques d'approche territoriale, d'approche géographique, plus performantes, parce que le mot Cévennes a une résonance intéressante. Et puis en plus, les Cévennes, c'est à cheval sur deux départements. Donc comment on fait? Parce que ça, le législateur, il n'a pas prévu qu'on a une situation comme ça. Donc voilà, les Pyrénées, c'est une destination. Les Cévennes, c'est une destination. Le canal du Midi, c'est une destination. Nous, notre intérêt, c'est de rendre ces destinations plus performantes. Parce que plus elles le seront, plus on va faire émerger l'image de l'Occitanie.
D'accord. Vous déployez vos outils de promotion. Quels sont-ils? Brochures, affichés, flyers ou plutôt le numérique, la presse, les salons?
Comme je disais, on a une action forte sur les médias. Voilà, donc ça c'est sûr, sur les réseaux sociaux. En termes d'édition, on en fait un peu, mais en fait véritablement de moins en moins. On va vraiment à l'essentiel, tout ça aussi dans une logique de développement durable. Enfin, on faisait beaucoup beaucoup de papier il y a quelques années, on en fait de moins en moins. Pour autant, on n'est pas moins pertinent parce qu'on va à l'essentiel, on a les supports qu'il faut. Et puis tout ça, on retrouve tout aussi sur nos sites internet, quoi. Enfin, c'est quand même la vitrine de nos destinations, donc on met beaucoup d'efforts aussi sur cet aspect-là. Donc en fait, c'est une compilation d'un peu tout. Voilà, mais on s'est adapté au fur et à mesure des années. Il y a le Covid aussi qui est passé par là, donc il a fallu aussi beaucoup s'adapter. Et aujourd'hui, on arrive à... le plus important, je trouve, c'est de s'adapter, en fait. Voilà, d'avoir les bons supports pour les bonnes cibles, sans faire du tout papier, qui je pense. Mais pour autant, on ne peut pas tout le temps se passer du papier. Voilà, mais on l'a beaucoup, beaucoup réduit.
D'accord.
Enfin, moi, je dirais en complément, parce qu'on est dans la même vision stratégique, la meilleure ou les meilleures communications qui peuvent être faites, ce sont celles qui sont faites par les autres. Donc, plus on va s'appuyer sur des gens qui sont en capacité de parler de l'Occitanie ou parler de la Lozère ou parler de nos destinations, mieux c'est. Donc on a cité tout à l'heure les influenceurs, on a cité les journalistes. Je vous donne un exemple parce qu'il est tout récent et que je vais y travailler en sortant de ce studio tout à l'heure. Norwegian Airlines, qui est une compagnie aérienne de Scandinavie, ouvre une nouvelle route aérienne entre Copenhague et Toulouse. Ce qu'on propose à Norwegian pour les accompagner, c'est de leur proposer 3 jours d'Occitanie Retour gratuits pour lancer la ligne pendant cet été. Et le pari qu'on fait, c'est que la communication que va faire Norwegian pour dire ben, on ouvre une nouvelle ligne et on a dealé avec les opérateurs touristiques de la destination 3 jours de train gratuit si vous prenez l'avion avec nous et si vous allez à Toulouse. Voilà, la communication qui va être engagée par cette compagnie aérienne, elle nous coûte les 3 jours de train qu'on donne, mais en même temps, elle nous rapporte une communication sur le territoire qu'on ne serait pas en capacité de faire. Donc tout ce qui est fait par les autres, c'est mieux. Moi, j'ai tendance à dire que voilà, il ne faut pas confondre le marketing et la communication. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à vos collègues de master. C'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre la com et la pub. C'est pas la même chose non plus. Et puis, on va dire, les grands médias qui étaient ceux dans lesquels qu'on utilisait d'habitude, je pense en particulier à la télé, voilà, on arrête plutôt ça parce que vous avez compris que la communication elle est de plus en plus personnalisée, qu'aujourd'hui, c'est notre intérêt de communiquer sur des gens qui habitent à Copenhague et qui auront envie de venir chez nous parce qu'ils vont prendre l'avion, parce que c'est un peu difficile de venir en voiture ou en train. Donc, il vaut mieux communiquer avec l'opérateur de la compagnie aérienne qui fera passer les messages, à mon avis, de manière plus performante que nous.
D'accord. Pour faire une petite coupure dans cette interview, je vous propose d'écouter la chronique de Mamie. Cette chronique va vous parler de la communication touristique et de ses quelques stratégies à promouvoir, surtout pour les jeunes. D'abord, parlons de la communication touristique. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, bonjour. En fait, la communication touristique peut être définie comme un ensemble considérable de moyens et supports qui diffusent les images des territoires. Il s'agit donc d'un espace privilégié de mise en scène patrimoniale et identitaire des destinations touristiques avec des conséquences multiples. Aujourd'hui, il existe de multiples ressources pour créer une stratégie de contenu efficace sur les réseaux sociaux et répondre aux différents enjeux des acteurs du tourisme, comme redynamiser l'attractivité des régions, rajeunir l'image de sites culturels ou fidéliser des publics saisonniers sur toute une année.
Dans toute démarche à adopter, y a-t-il un processus derrière, ainsi que des stratégies élaborées ?
Bah oui, bien sûr. Nous allons parler de typologie de voyageurs, des stratégies de communication et des réseaux sociaux pour la promotion de la communication touristique.
Comment bien déterminer sa cible ?
À chaque typologie de voyageurs, il y a un besoin spécifique à définir. Et dans le but de mener à bien une stratégie de communication, on doit identifier les catégories cibles et leurs besoins. C'est la phase de création des personnages. Et la création de ces derniers est une étape cruciale pour donner le coup d'envoi à une stratégie de communication. Il est en effet primordial de s'assurer que les supports et objectifs correspondent aux différents profils de touristes potentiels, de manière à leur offrir un contenu sur mesure. En prenant en compte cette approche, on augmente considérablement les chances de réussite. Par exemple, il existe plusieurs typologies de cibles pour lesquelles vous allez pouvoir déterminer leur motivation et ce qu'ils recherchent de leur voyage. Nous avons en premier les familles connectées, dites les digital moms. Nous avons ensuite les milléniaux, les millénials, les amateurs de sport et de sensations fortes qu'on appelle les wellness, les travailleurs urbains et mobiles, et enfin les jeunes retraités qu'on appelle les old.
Concernant les jeunes, j'imagine qu'il faut communiquer par le biais des réseaux sociaux.
Oui, et on peut dire que les réseaux sociaux sont les moyens de communication incontournables du tourisme de demain. Comme on a pu le constater, les réseaux sociaux font partie intégrante du parcours client lorsqu'il choisit une destination. Tu ne peux donc pas faire une croix dessus si tu es un professionnel du tourisme. Sache d'ailleurs qu'une étude Next Content pour Exedia assure que 23% des voyageurs affirment être influencés par les réseaux sociaux pour le choix de la destination, des activités et de l'hébergement. Les avis et les commentaires jouent également un rôle de premier plan. Et bien sûr, les réseaux sociaux sont également utilisés pendant et après le voyage. Ils permettent de promouvoir un séjour, une marque ou encore une activité. Bref, ils sont indispensables. Donc, tout en sachant que les réseaux sociaux sont majoritairement utilisés par les jeunes.
Et quel réseau social utilise-t-on pour la promotion de la communication touristique ?
Eh bien, les communications touristiques composent plus ou moins de réussites avec un imaginaire et une imagerie. L'utilisation d'outils spécifiques comme les réseaux sociaux est à même de façonner un patrimoine différent, parmi lesquels nous avons Pinterest, qui est une plateforme inspirante et bienveillante pour les voyageurs. Nous avons Clubhouse, le social audio pour incarner en plus l'expérience touristique. TikTok que nous connaissons tous et ses contenus authentiques et spontanés. Nous avons Instagram pour que ta photo voyage. Et d'ailleurs, 44% d'entre les voyageurs avouent même ne pas pouvoir s'en passer. Et pour promouvoir tes voyages et augmenter sa visibilité auprès de cette cible, il est donc fondamental de rendre ta communication sur Instagram attractive. Et il est aujourd'hui impossible de passer à côté de l'e-tourisme. Poste sur les réseaux sociaux, articles de blog, applis, vlogs et autres contenus numériques inondent nos recherches. Nous avons ensuite Snapchat qui est une opportunité pour le tourisme. Et c'est le second réseau préféré des jeunes après Instagram, avec 81% pour Instagram et 74% pour Snapchat. Snapchat promeut des contenus courts et instantanés où la spontanéité est de rigueur. Et enfin, nous avons Facebook Travel Ads pour collecter des leads. En France, Facebook reste l'un des réseaux sociaux les plus populaires, avec 73,9% d'utilisation quotidienne, d'après une étude de Statista. Et 67% de Français postent des photos sur leur compte après leur retour de vacances. Donc, vu comme des guides de voyage, les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental dans la promotion des destinations.
Merci mamie pour cette chronique. Merci. Messieurs, est-ce que vous partagez ?
Bien sûr, on partage. Enfin, on est sur la majorité de tous les réseaux sociaux dont Amy vient de parler, et avec un supplémentaire, nous, on travaille aussi de mieux en mieux aussi sur LinkedIn. D'accord. Qui est quelque chose aussi qui permet aussi de relayer quelques expériences à des cibles bien particulières, mais qui marchent bien aussi.
Ben, on va t'embaucher, hein. C'est tout dit, donc c'est prêt pour la relève. Non, je voudrais juste rajouter quelque chose sur les réseaux sociaux et sur la référence à l'influence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement, avant, on payait pour communiquer. Aujourd'hui, on cherche à de moins en moins payer, et l'idée d'influenceur, même s'il y a des influenceurs qui sont payés très cher, ce qui pose d'autres questions quand même, mais bon, fait que voilà, il y a une communication qu'on paye, puis il y a une communication qu'on gagne. On dit ça comme ça en termes un peu marketing. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réseaux sociaux et l'influence, ça va dans les deux sens. C'est que ça peut être très positif, mais ça peut être très très négatif. Si quelqu'un a envie de commenter ses vacances parce qu'il faisait pas beau, parce que il a envie de présenter la Lozère sous la pluie, parce que il a vécu une semaine de pluie, d'y n'y aller surtout pas parce qu'au mois d'août il pleut tout le temps, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et c'est parce qu'on ne maîtrise pas que des fois ça peut être un peu difficile à gérer. Mais après, je vois que vous avez une bouteille de Quézac juste derrière, vous pouvez mettre sur la bouteille de Quézac que la Lozère, c'est un super endroit pour passer des vacances. Il y a plein de supports différents qui s'offrent à nous.
Bien sûr. Je vous remercie pour ces réponses et mamie pour cette chronique. On se retrouve tout de suite après la pause musicale.
Des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît.
J'aurais dû nous écouter.
Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil vif, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Dormez rêver, moi je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnons des mauvais jours, pensez à moi quelquefois, plus tard, quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours.
Nous sommes de retour dans l'émission 48 Digital. Bonjour aux téléspectateurs et auditeurs qui nous rejoignent. Je suis toujours en présence de Jean Pinard, le directeur du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie, le CRTL, et Éric Desbennes, directeur de Lozère Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme en Lozère. Sur cette deuxième partie, nous allons parler de la mission d'Observatoire du Tourisme, une mission moins connue des organismes de gestion de destination. Donc, messieurs, pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et à quoi sert l'observatoire ?
Eh bien, comme son nom l'indique, à observer tout ce qui concourt aux faits touristiques. Alors, quand je dis aux faits touristiques, c'est bien sûr la fréquentation de nos destinations. L'idée, c'est de savoir quels sont les profils de gens qui viennent chez nous, à quel moment ils viennent. On a pour ça de plus en plus de sources, de données d'information. Celle qui est peut-être la moins connue, mais qui est la plus importante pour nous, en tout cas qui a pris de plus en plus de place, c'est celle qui est délivrée par les opérateurs de téléphonie mobile et qui, de manière, alors je vous rassure, totalement anonyme, sont capables de voir qu'aujourd'hui je suis amende parce que mon numéro de téléphone, mon téléphone a borné sur une antenne ici et l'opérateur de téléphonie sait que je n'habite pas dans le département de la Lozère. Donc il va être en capacité de dire voilà, aujourd'hui il y a quelqu'un qui est venu, qui habite à l'extérieur, qui est venu amende. Et si on additionne le nombre de personnes qui sont concernées, parce que je pense que je ne dois pas être le seul à être venu amende aujourd'hui sans habiter ce territoire, et on le fait tous les jours et toute l'année, donc ça nous donne des informations très précieuses. Mais plus qu'observer, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'analyser. Parce que l'observation pour l'observation, si je vous dis qu'on a fait 220 millions de nuitées en 2023 en Occitanie, c'est un chiffre, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quand est-ce qu'on les a fait, à quelle saison on en fait le plus, sur quel périmètre de territoire et de destination touristique on a le plus progressé. Ça permet de faire un peu de pub pour la Lozère et de dire que dans, de tous les départements français depuis la fin de la crise de la Covid, c'est le département de la Lozère qui a eu la meilleure progression, d'ailleurs qui a eu un intérêt suite à cette crise et derrière cette crise pour les départements ruraux. Donc voilà, ça nous permet de faire des tas d'observations, de produire des tas d'analyses et puis surtout de faire en sorte que cette analyse, ces statistiques soient partagées avec nos collègues qui prennent le relais derrière, et en particulier nos collègues du marketing qui vont dire tiens, on remarque que depuis 3 ans la clientèle suisse est en progression, que dans la clientèle suisse c'est plutôt les millennials, pour reprendre les expressions de Manny tout à l'heure, qui portent de l'intérêt sur l'Occitanie, et donc de déporter une partie de nos efforts de communication vers ces clientèles. Donc voilà, plus que l'observation, c'est l'analyse et la production de statistiques qui nous permet d'adapter nos décisions et surtout d'adapter nos stratégies une fois qu'on a fait ce travail.
Déjà, on a aussi l'origine d'où viennent les personnes, en fait, en fonction de l'endroit où ils sont facturés. Voilà. Donc Jean sera considéré aujourd'hui comme un excursionniste, en fait, pour Orange. Voilà, l'année dernière en Lozère, on en a eu 9 millions d'excursionnistes et un petit peu plus de 6 millions de nuitées. Voilà, nous on s'appuie beaucoup sur cet outil d'Orange qui a été développé depuis plusieurs années. On était un des premiers départements aussi à rentrer dedans à titre expérimental, parce que c'était quelque chose qui se lançait à l'époque. Aujourd'hui, c'est une solution qui est stabilisée et qui donne effectivement plein d'indications très intéressantes sur l'origine donc des clientèles. Quand les gens sont sur le département, où est-ce qu'ils vont? Ils peuvent être hébergés ou avoir un logement en Margeride et puis aller effectivement dans les gorges du Tarn, sur l'Aubrac. Enfin voilà, on a tous ces mouvements et puis ça nous oriente sur les actions qu'on va pouvoir faire. Orange, c'est un des indicateurs. On travaille aussi, on a des données de l'INSEE aussi, en tout cas sur la fréquentation de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air et des hébergements collectifs. On s'appuie aussi, nous, tous les ans sur le bilan numérique qu'on peut faire, ou dans le cadre de l'observatoire aussi sur les avis clients, parce que c'est aussi très très intéressant de faire remonter tout ça. Et puis aussi des données, et ça c'est en partenariat aussi avec le CRT et ADN Tourisme aussi, des données sur, parce qu'on n'a pas tellement de lisibilité s'il n'y a pas un outil qui nous permet de le regarder, sur les hébergements Airbnb en l'occurrence. Voilà.
Ok. Les porteurs de projets touristiques sont aussi à la recherche de données pour vérifier la faisabilité de leur projet et sa viabilité. Est-ce que les données des observatoires servent aussi en appui aux porteurs de projets?
Nous, on accompagne les porteurs de projets au sein de Lozère Tourisme. Il y a des porteurs de projets qui peuvent être accompagnés aussi en dehors, mais en tout cas, les porteurs de projets touristiques, oui, évidemment, c'est une donnée qui est hyper intéressante et hyper importante. Quand ils veulent s'installer sur une région en particulier, on peut faire un extract des données sur une région précise. Et puis, bien sûr, après, on leur adresse, mais c'est disponible aussi sur l'espace du site internet de Lozère Tourisme, toutes les données d'observation qu'on a pu analyser et qui sont disponibles et qui sont des éléments très très intéressants et très importants pour un porteur de projet pour s'installer.
Ce qu'il faut savoir, c'est de la statistique publique, donc elle est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de sources qu'on en avait avant. On a cité les opérateurs téléphonie mobile. On pourra citer demain, et ça va arriver très vite, les gestionnaires de cartes bancaires qui, vous imaginez bien, ont plein d'informations parce que vous êtes Hollandais, vous venez passer vos vacances ici, et chaque fois que vous allez payer avec votre carte bancaire, vous allez tracer. Donc, c'est pas Big Brother, ça, c'est parce que tout ça est anonyme, je vous rassure sur ce sujet-là. Mais voilà, on a plein de sources. Et par rapport à ta question d'origine, ces stats, elles sont accessibles à tout le monde. La seule difficulté, c'est que comme il y a tellement de données, il faut qu'on arrive à les concentrer. Alors, on produit ce qu'on appelle des chiffres clés chaque année, ce qui donne une image un peu instantanée de ce qui fait l'économie touristique sur nos territoires. Mais on peut croiser des informations à l'infini pour savoir quand est-ce que les Belges sont les plus présents sur nos territoires, qu'est-ce que consomment le plus les Hollandais. Voilà, c'est sans fin. Et l'idée, c'est justement d'essayer d'être en capacité de rendre accessibles ces données. Et dans les bénéficiaires, il y a bien sûr tous les étudiants, parce que je pense que ça vous aide aussi dans votre formation de comprendre comment les marchés s'organisent, comment les clients consomment, pourquoi telle ou telle clientèle vient plus tôt en septembre et d'autres plus tôt au mois de mai. Voilà, c'est toutes ces informations qu'on partage.
Une application très concrète hein, par rapport à ce que disait Jean tout à l'heure par rapport au contrat de destination. En fait, la Lozère, avec le Lot et l'Aveyron, on est dans un contrat de destination qui tourne autour de l'itinérance sur l'échappée plaisir au pluriel. En fait, voilà, c'est le positionnement qu'on a. Très concrètement, avec Atout France qui est venu comme partenaire, grâce à Jean qui est allé démarcher aussi à Paris Atout France, on a été en mesure, avec les données de l'observation, de pouvoir cibler des opérations précises sur des clientèles européennes, puisque Atout France, c'est pour la promotion de la France à l'extérieur hein, du pays. Et donc, on a fait des actions relatives à la clientèle belge, voilà, à la clientèle flamande. Et on a pu faire aussi une action sur une clientèle plus de proximité, qui est la Catalogne. Voilà. Et on mesure effectivement que ben, ces populations viennent, en tout cas sur nos territoires, je parle bien sûr de la Lozère, mais aussi l'Aveyron et le Lot, parce qu'on a des clientèles qui se ressemblent. Voilà. Et donc quand on travaille ensemble, on est effectivement, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus efficace et plus performant.
Très bien. Désormais, je laisse la parole à Arwen, qui va nous présenter sa chronique sur le thème de l'évolution du tourisme en montagne ces dernières années.
Oui, bonjour Julie. Donc, en France, les hivers s'estompent et les vagues de chaleur deviennent récurrentes. Depuis 1900, on observe en France une augmentation de la température de 1,7 degré. En montagne, ce phénomène est davantage visible. La durée et l'épaisseur de l'enneigement diminuent. L'enneigement a perdu plus de 40 cm d'épaisseur de neige hivernale en moyenne depuis 1960. En dessous de 2000 mètres, la période d'enneigement est passée de 34 jours à seulement 22 jours, entre 1971 et 2019. Un problème de saisonnalité se pose aujourd'hui. Les basses et moyennes saisons sont davantage touchées par ce phénomène de réchauffement climatique. Ces montagnes ne bénéficient pas des plus longues périodes d'enneigement. Pour continuer d'ouvrir les stations, ont besoin de fréquentation. Si les stations ne sont plus en capacité d'ouvrir régulièrement leurs pistes, elles vont devoir développer d'autres activités pour compenser ce manque de neige en hiver ainsi que le reste de l'année pour pallier au manque de touristes durant la saison forte. Aujourd'hui, on peut y faire des activités toute l'année. Prenons l'exemple de la station de ski Foromeux, qui se situe donc dans les Pyrénées, qui atteint 2213 mètres d'altitude. Cette station compte 41 km de pistes, adaptées à toute pratique, ski alpin, ski de fond, snowboard. C'est une station très attractive. Elle est notamment connue pour avoir accueilli en décembre 2017 la Coupe du Monde de freestyle. Malgré son attractivité, cette station subit le manque de neige. On remarque que le total de chutes de neige est passé de 588 cm lors de la saison 2012-2013 à 156 cm lors de la saison 2021-2022. Cette comparaison parle d'elle-même. Les stations doivent trouver une solution innovante et attractive pour s'assurer un avenir. Foromeux est un parfait exemple d'une station pérenne. Même si elle vise davantage les touristes amateurs de sports d'hiver, on ne s'ennuie jamais dans la station, été comme hiver. Les amoureux de la nature s'y sentiront apaisés avec un grand nombre de sentiers de randonnée pédestres, VTT et de nombreuses autres activités de pleine nature. La station vous invite à participer à des activités typiques de l'hiver tout au long de l'année, comme les balades en chien de traîneau par exemple. Vous pouvez également profiter des bains de Saint-Thomas-les-Bains, accessibles été comme hiver. Les stations de ski doivent aujourd'hui se développer pour pallier à ce problème de saisonnalité qui va s'accentuer avec les années. L'État a donc mis en place le plan Avenir Montagne pour accompagner les stations dans ce changement. Une enveloppe de 650 millions d'euros a été déployée pour accompagner les stations dans la réduction de leur empreinte environnementale, ainsi que les accompagnant dans le développement d'activités rendant la montagne attractive pendant les trois autres saisons.
Merci Arwen pour cette chronique. Pour vous messieurs, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour l'évolution du tourisme dans les zones de montagne ces dernières années et quels sont les défis pour l'avenir ?
Ce qui vient d'être dit est juste. Alors, il y a eu une face à ces dérèglements climatiques qui datent pas d'aujourd'hui. Hein, ça vient d'être rappelé. Le premier réflexe était de dire bon, faut qu'on garantisse la neige. Donc, on a aménagé de quoi garantir la neige et de produire de la neige. On dit artificielle, mais en fait, voilà, on fait des réserves d'eau et puis quand il fait froid, on balance l'eau et qui se transforme en neige. Et donc, on se garantit de la neige comme ça. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la solution. D'abord parce que l'eau venait à manquer dans les stations. Si on la prenait pour faire la neige artificielle, ben on n'était plus capable de la restituer pour les touristes et pour les habitants. Donc il y a eu des conflits d'usage et on s'est dit que ce n'était pas la bonne solution. Et puis on s'est dit tout d'un coup, on va faire du tourisme de 4 saisons. Alors moi je suis très prudent sur le terme parce que je pense que ça fait très longtemps qu'on fait du tourisme de 4 saisons. Tu as cité tout à l'heure Font-Romeu. D'une manière générale, les Pyrénées, on ne le sait pas forcément, mais 60% des nuitées à l'année des Pyrénées sont faites sur la partie été et 40% sur la partie hiver. Donc l'idée de dire qu'il y a des gens qui viennent toutes les saisons, c'est déjà quelque chose d'acté. C'est encore plus vrai dans des départements du Massif central où là par contre la fréquentation est bien plus forte l'été qu'elle ne l'est l'hiver. Donc voilà, l'évolution elle est liée à la pratique du ski. Alors je ne sais pas qui regardera l'émission et qui écoutera ce que je dis, je vais être prudent dans ce que je dis, mais on ne peut pas aujourd'hui, sauf dans les grandes stations alpines, imposer le modèle de Tignes ou de Val d'Isère ou de Val Thorens aux stations pyrénéennes, aux stations de Massif central. Donc le tout-ski qui est vrai pour ces stations qui, il faut aussi le dire, pratiquent des tarifs complètement démesurés les 4 semaines de vacances de février. C'est ça l'économie. C'est de dire, voilà, on se gave pendant 4 semaines et puis le reste, on prend ce qui vient. Voilà, n'est pas le modèle sur lequel on travaille sur nos destinations. Et fort heureusement, les Pyrénées ne prennent pas ce modèle-là et je pense ont anticipé le fait que on faisait du ski quand il y a de la neige et puis quand il n'y a pas de neige, on faisait autre chose. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et la montagne se vit toute l'année, hein, de toute façon. Ça, c'est aussi quelque chose sur laquelle la Lozère travaille et les prestataires se sont adaptés aussi. C'est un constat important à faire. Ce que viennent chercher les gens en fait dans nos départements et en montagne, c'est l'évasion, c'est le dépaysement. Enfin, on l'a encore plus ressenti avec le Covid, même si c'était pour nous, en tout cas en Lozère, des messages que l'on faisait passer. Et puis, on peut pratiquer aussi, quand il fait des très belles périodes comme ça, la randonnée. On peut faire de l'équitation, on peut faire du vélo électrique, enfin il y a plein de choses à faire quand il n'y a pas de neige. Enfin voilà, donc c'est la neige, c'est un plus quand elle est là, c'est très bien, mais aussi on peut pratiquer nos territoires et offrir beaucoup de choses quand il n'y en a pas.
Très bien. En effet, messieurs, ce tourisme durable est commun aux politiques publiques européennes, nationales, régionales et départementales. Donc on passe dans une troisième partie sur ce tourisme durable. Donc dites-moi, est-ce un effet de mode ou une transformation réelle du tourisme face au changement climatique ?
La difficulté, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tourisme, il est créditeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On pèse 8% des emplois de l'économie au niveau national. Par contre, on pèse 11% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça ne marche pas. Il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut qu'on le réduise parce que s'il y a un secteur qui est vraiment impacté par ces changements climatiques, c'est le tourisme. Ah, quand il fait 45 degrés sur la plage, il n'y a plus personne sur la plage. Quand il fait 10 degrés le 21 décembre ou en pleine vacances de février, il n'y a plus de neige. Donc on voit bien qu'on est complètement impacté. Donc si ce n'est pas nous qui changeons et qu'on attend que ce soit d'autres secteurs, à commencer par l'industrie ou l'agriculture qui changent, ça ne va pas marcher. Donc on a aussi des efforts à faire. Et ce qu'il faut accepter, c'est qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables et qui ne sont surtout plus responsables dans le tourisme. Et ce qui n'est plus responsable dans le tourisme, c'est le transport. Alors c'est paradoxal parce que le tourisme, il est né du voyage. Et aujourd'hui, ce qui ne va plus dans le tourisme, c'est une offre de transport de plus en plus démesurée qui fait que pour partir en vacances, on se déplace de plus en plus. Et ça, il va falloir qu'on arrive à le réguler.
Alors c'est pas un effet de mode, puisque les constats et les chiffres qui ont été donnés, c'est une réalité, puis on l'aperçoit tous, tout le temps, en tout cas pour le département de la Lozère, mais je vois aussi chez mes homologues, et puis pour le CRT aussi, les stratégies tournent autour de ça, pour qu'il y ait une vraie prise de conscience. Donc non, c'est pas un effet de mode, il est certain qu'on a des efforts à faire, de montrer aussi l'exemple, et puis d'acculturer aussi les personnes qui viennent chez nous, à faire attention à beaucoup de choses. Cette année, en tout cas en Lozère, il y a eu de grosses communications qui ont été faites sur comment économiser l'eau aussi, parce que ça c'est quelque chose qui arrive et on s'en aperçoit de plus en plus. Donc voilà, il y a des enjeux quand même sur lesquels il faut que l'on accompagne aussi, dans la sensibilisation aussi, et dans ce que viennent chercher, et qu'il faut absolument qu'on préserve aussi, en tout cas en Lozère, parce que c'est un territoire préservé, et on souhaite tout ce qui le reste. C'est ça le tourisme durable aussi, c'est que tout cela dure.
D'accord. Peut-être devrions-nous parler de tourisme positif plutôt que de tourisme durable ?
Alors, tous les mots utilisés, hein, quand il y a eu la crise de la Covid, vous savez, on a tous été enfermés chez nous, vous, moi, Eric, tous les collègues et tous les professionnels du tourisme. Donc, au bénéfice de cet enfermement, un peu, de cette assignation à résidence un peu forcée, on s'est tous juré à la sortie qu'on allait laver plus blanc et qu'on allait inventer un autre tourisme. Donc, il y a eu toutes les appellations, le tourisme positif, le tourisme demain, le nouveau tourisme. Moi, ce que je constate, c'est que malheureusement, des bonnes intentions qui sont nées de notre capacité à inventer quelque chose parce qu'on n'avait plus rien à faire, hein, donc il fallait bien s'occuper. Ben oui, on a envoyé les gens dans l'espace, on invente des paquebots où 10 000 personnes se mettent dessus et qui polluent encore plus que ce qu'on le faisait jusqu'à maintenant. Voilà, on n'en prend pas le chemin, il faut dire les choses. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'on est incapable de se réguler sur l'offre. Et en particulier sur l'offre de transport. Donc, plus on développe de l'offre de transport, plus on pollue, il faut dire les choses, à part le train. Et plus on pollue, plus on participe au réchauffement climatique. Et plus on va vers le précipice, et plus ça va être dur. On a vécu en 2022 trois périodes de canicule, qui fait qu'en 2023, on a vu, en particulier sur le littoral, un peu moins de gens qui venaient, parce qu'ils se sont dit... Ben, moi, si c'est pour faire la sieste de mes enfants dans une voiture dont j'allume la clim, parce que c'est la seule manière pour moi de le mettre au frais pour qu'il fasse sa sieste, ça ne marche pas. Donc voilà, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Et moi, je ne suis pas très positif sur l'avenir du tourisme.
Et pourtant, nous, on dit venez en Lozère parce que la fraîcheur est là. Hein, toutes les nuits sont fraîches, vous avez encore besoin d'une petite couette. Donc voilà, c'est destination fraîcheur, c'est la Lozère aussi quand même.
D'accord. Comment cette idée de tourisme durable se traduit dans les actions des stratégies, qu'elles soient régionales ou départementales ?
J'en parlais tout à l'heure aussi, c'est la clientèle de proximité aussi. Il y a un potentiel de voyageurs pour découvrir nos destinations qui sont toutes proches. En fait, voilà, enfin, c'est ce qu'on disait aussi avant le Covid, en tout cas en ce qui nous concerne, qu'on a pu vérifier pendant cet épisode particulier où il y avait, souvenez-vous, le cercle, le périmètre des 100 km. Et où là, il faut bien se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément les destinations qui sont toutes proches, même pour des Lozériens, de découvrir pleinement la Lozère. Donc il y a un potentiel de clientèle de proximité, ça déjà c'est quelque chose. C'est important, c'est en tout cas une cible qui est importante pour nous et qu'on essaye de travailler. Je sais que pour Jean aussi, il en parlera. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qui peut être mis en place sur les déplacements dits « doux », où on peut aussi mettre en avant les déplacements en cyclo. On voit que cette activité est de plus en plus pratiquée. Donc on a mis, nous, l'année dernière en place à Bagnoles-les-Bains une borne de recharge de vélo électrique. Enfin, voilà, y a, c'est toutes ces actions que l'on imagine et qu'on essaye de mettre en place. Et puis il y a les navettes touristiques aussi que met en place la région sur le département en prenant la suite de ce qu'avait fait déjà aussi le département. Donc voilà, c'est toutes ces actions mises bout à bout qui sont importantes. Et puis ce que disait Jean aussi, le train, l'Occitanie Rail Tour. Mais bon, là, je lui laisse en parler.
De manière très simple, hein, il faut accepter que nous allons voyager moins souvent, moins loin et plus propre. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, moi, ce qui doit structurer une réflexion de tourisme durable, c'est autour du voyage. Voilà. C'est difficile de dire ça. En plus, c'est vraiment difficile pour nous qui avons beaucoup voyagé, qui avons beaucoup contribué au réchauffement climatique par des pratiques qui n'étaient pas forcément très justes. En tout cas, on ne se souciait pas de ça. De dire ça devant vous, devant des jeunes, qu'il va falloir voyager moins souvent, moins loin. C'est dur, hein. Et puis c'est dur dans le tourisme, parce que vous savez que le tourisme, il est né du voyage, il est né de ces jeunes aristocrates anglais qui partaient faire le grand tour pour s'émanciper. Voilà, ils voyageaient. Alors, ils ne voyageaient pas de la même manière qu'aujourd'hui on voyage, mais bon, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que prendre l'avion pour passer un week-end dans une capitale européenne, c'est plus ça le modèle, voilà. Et comme on a beaucoup construit notre offre au cours du court séjour et autour du développement de ces clientèles internationales, c'est difficile de déconstruire cette offre-là. Voilà.
En effet. Nous allons écouter une nouvelle et dernière chronique. C'est la chronique humoristique d'Alexia sur le thème, évidemment, du tourisme durable. Mais attention, de façon décalée.
Bonjour messieurs, bonjour Julie. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le tourisme durable est une manière de voyager qui respecte l'environnement, les cultures et les populations des pays visités. C'est aussi une façon de se faire plaisir, de découvrir de nouvelles choses, de se détendre et de s'amuser. À savoir que le tourisme représente entre 5% et 10% des émissions de CO2 et que les trois quarts sont liés au transport. Il faut donc privilégier les mobilités douces. Avez-vous déjà pensé au tourisme durable spatial ? Vous aimez voyager, mais vous vous souciez aussi de l'impact de vos déplacements ? Vous cherchez une destination originale qui vous fera vivre des sensations mémorables et qui vous fera découvrir de nouvelles choses ? Alors le tourisme durable spatial est fait pour vous, qui représente seulement 2,4% des émissions de CO2. Avec le tourisme spatial, vous avez la possibilité de partir à la découverte de l'espace tout en respectant les principes du développement durable. C'est aussi une façon de voyager qui allie plaisir et émerveillement. C'est aussi une façon de contribuer à la science, à la paix et à la coopération internationale qui est très importante. Mais comment faire du tourisme durable spatial ? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette pratique ? Voici quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix. Dans un premier temps, il faut bien choisir son agence de voyage. Il existe plusieurs agences qui proposent des vols spatiaux. Mais attention, toutes ne sont pas aussi respectueuses de l'environnement et des populations que vous. Certaines utilisent des fusées polluantes qui émettent des gaz à effet de serre et qui contribuent au réchauffement climatique. D'autres exploitent des travailleurs sous-payés qui construisent et entretiennent les infrastructures spatiales dans des conditions déplorables. Préférez donc les agences qui ont une démarche éthique et qui utilisent des technologies propres et qui respectent les droits humains. En second temps, bien choisir sa destination. Il existe plusieurs lieux à visiter dans l'espace, que ce soit Mars, la Lune ou bien d'autres. Mais attention, tous les lieux ne sont pas aussi intéressants et accueillants que vous. Certains sont ennuyeux, sans vie et sans paysage. D'autres sont dangereux avec des températures extrêmes, des radiations mortelles ou des météorites menaçantes. Préférez donc les lieux qui ont un intérêt scientifique, culturel ou historique, qui offrent une vue imprenable sur la Terre ou sur les étoiles et qui garantissent votre sécurité. Et en dernier temps, bien choisir son activité. Il existe plusieurs choses à faire dans l'espace, comme flotter en apesanteur, faire le tour de la Terre ou du Soleil, ou encore marcher sur la Lune ou sur Mars. Mais attention, toutes ne sont pas aussi amusantes et enrichissantes que vous. Certaines sont répétitives, sans reprise ni défi. D'autres sont risquées avec des possibilités de panne, d'accident ou de perte de contact. Préférez donc les activités qui vous font vivre des émotions fortes, qui vous apprennent de nouvelles choses et qui vous font rencontrer des êtres vivants. Mais surtout, qui vous font garder les pieds sur terre.
Merci Alexia pour cette chronique humoristique. Messieurs, qu'en pensez-vous ?
Ah ben moi je suis tout à fait d'accord avec Alexia, d'autant qu'elle parlait de l'espace. La Lozère, c'est plus que l'espace, c'est les grands espaces. Donc là, on est tout à fait bien. Et puis, elle parlait d'avoir les pieds sur terre. Et ben nous, on a la tête dans les étoiles aussi, parce que avec le pic du Midi qui est en Occitanie aussi, parce qu'on a deux sites quand même inscrits dans la réserve internationale de ciel étoilé. Et ben on a le parc national des Cévennes et on a le pic du Midi. Donc effectivement, l'espace, ben nous, on le voit comme nulle part ailleurs en fait. Voilà.
D'accord. Le tourisme peut être aussi un générateur de conflits dû aux interactions avec la nature, avec de fortes fréquentations. Mais la dimension sociale du tourisme durable doit permettre à tous aussi d'accéder aux vacances. Cet été, il a beaucoup été question de surtourisme qui a créé des situations problématiques sur certains territoires, comme par exemple les Calanques. Pensez-vous que notre région ou notre département pourrait connaître une telle situation ?
Alors on a beaucoup parlé hein, de surtourisme, mais toi, tu cites les Calanques. Et si je te demandais de m'en citer 10 de plus, je ne suis pas sûr que tu me les citerais, parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein. On a les Calanques, le Mont-Saint-Michel, l'île de Bréa. Et puis, une fois qu'on a cité ces trois-là, bon, on a un peu de mal. Alors après, on passe à Venise ou à Barcelone. Donc, il y a eu un effet de mode, j'ai envie de dire, médiatique, qui a voulu que, ou des journalistes, ou, on va dire, certains intellectuels viennent condamner à travers le surtourisme une vision du développement touristique qui ne leur plaît pas, parce que de leur temps, ce n'était pas comme ça. Donc, je suis très, très prudent, moi, sur la notion de surtourisme. En tout cas, on n'y est pas confronté ici. Je pense qu'on ne le sera pas, on ne le sera pas d'ici un temps. Et j'insiste pour dire qu'il ne faut pas confondre surtourisme et la notion de tourisme de masse qui est souvent ce qui accompagnait la réflexion derrière le surtourisme. Le tourisme de masse, c'est des gens qui viennent au même moment, au même endroit, dans des espaces qui ont été aménagés pour ça. Et tant mieux, je vais dire, s'ils viennent au Cap d'Agde au mois d'août, c'est qu'il y a des raisons. D'abord, c'est qu'il fait beau, c'est que ça a été aménagé pour ça et qu'il n'y a rien de critiquable à aller au Cap d'Agde passer ses vacances. Si on préfère aller voir le ciel étoilé en dormant à la belle étoile au Mont-Aigoual, ben on va au Mont-Aigoual. Il n'y a pas de jugement de valeur à poser par rapport à ça. Ce qui est très gênant dans la notion de surtourisme et ce qui en a découlé derrière, c'est finalement un déni de la démocratisation du tourisme. Ce qui est sûr, c'est qu'en 40 ans, il y a de plus en plus de Français qui sont partis en vacances, il y a de plus en plus d'Européens qui sont partis en vacances, il y a de plus en plus de gens dans le monde qui sont partis en vacances parce qu'on travaille un peu moins, parce que le temps libéré est de plus en plus important. Et il faut se réjouir de ça, à condition bien sûr qu'on en maîtrise les effets sur l'environnement, parce qu'il y a des endroits, il y a des falaises ici, dans les gorges de la Jonte, où des gens qui pratiquent l'escalade, on va leur dire, pendant que les vautours vont nicher, tu ne feras pas faire d'escalade. Oui, c'est normal qu'on fasse ça. Donc ouais, il y a des phénomènes de régulation qui sont nécessaires, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut parler de surtourisme, je pense, en tout cas pas en Occitanie.
Et enfin, une dernière question, messieurs. La région Occitanie, et notamment son littoral, est aussi un espace de tourisme de masse et bon marché. On y revient. Comment concilie-t-on donc cela avec cette notion de tourisme durable ?
Je vais te renverser la question. À ton avis, est-ce que quelqu'un qui est sur la plage aura un impact sur l'environnement plus conséquent et plus important que quelqu'un qui vient faire de la marche en Lozère ?
Sûrement pas, je vous dirais.
Non, voilà. J'ai même envie de dire l'inverse, parce qu'en général, quand je fais ça, je mets une photo de quelqu'un en maillot de bain, et puis je mets une photo de quelqu'un qui fait un trail avec du matos hyper technique, parce qu'il a des bâtons en carbone, parce qu'il a du Gore-Tex et tout, pas toujours fabriqué en France, et pour le faire venir, on va contribuer à ce qui n'est pas durable dans le tourisme. Donc il faut qu'on fasse attention aux images et un peu aux mythes. Voilà. Des gens qui sont sur la plage à la Grande Motte. La Grande Motte, je prends souvent cet exemple parce que c'est un bon exemple. C'est la station du béton, donc on dit ouais, c'est pas bien et tout. Bon, c'est la station qui permet en même temps d'accueillir 100 000 personnes. Mais l'ingénieur ingénieux qui a aménagé la station de la Grande Motte, il a tout fait pour qu'on soit, quel que soit l'endroit dans lequel on réside, à moins de 17 minutes à pied de la plage. Donc quand on arrive à la Grande Motte, malheureusement pas en train parce qu'il n'y a pas de gare et ça c'est une erreur, mais quand on arrive à la Grande Motte, en général on pose sa voiture, on la prend plus et puis on va faire un peu de vélo, on va faire un peu de paddle et puis on va sur la plage, mais ces pratiques-là n'ont aucun impact sur l'environnement, en tout cas aucun impact supplémentaire que quelqu'un qui viendrait marcher en Lozère. Donc il faut qu'on fasse attention à l'image. Et le littoral, oui, concentre beaucoup de monde. Ce qui finalement pose problème sur en termes de tourisme durable, c'est comment tous ces gens viennent. Parce qu'il y a 1 million de lits touristiques. Donc il y a 1 million potentiel de personnes qui viennent principalement en voiture parce que malheureusement, les aménagements n'ont pas permis de venir à la Grande Motte en train. Mais une fois qu'on est arrivé, la pratique, pour moi, n'a pas d'impact sur l'environnement, sauf à considérer que toute la crème à bronzé qu'on se met, effectivement, vient participer à la pollution de l'eau, ce qui est vrai pour partie, mais c'est vrai aussi quand on descend les gorges du Tarn en canoë et qu'on se tartine de crème solaire parce qu'on n'a pas envie de brûler. Voilà.
J'imagine. En tout cas, je vous remercie, Éric Deben et Jean Pinard, d'avoir bien voulu participer à cette interview et d'avoir répondu à mes nombreuses questions. Je remercie aussi les chroniqueurs de l'émission, Mamie, Arwen et Alexia, ainsi que toute l'équipe technique et de communication, à Pollen pour les locaux, à Lozère Développement pour leur aide précieuse, sans oublier 48FM. On se retrouve le 16 janvier 2024, toujours à 12h30, pour une nouvelle émission de 48 Digital sur les intelligences artificielles et le tourisme. Merci à tous.
Merci.